L2 géant. Bienvenue sur L2 géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L2 géant reçoit Zep pour la parution de son album de bande dessinée intitulé Ce que nous sommes. Bonjour Zep.
Bonjour.
Zep, au début de votre album, deux personnages, Constant et France, devisent en se promenant dehors. Constant raconte une aventure sensorielle où il s'est fait dévorer par un requin après avoir nagé dans les profondeurs avec une baleine bleue. Il était en réalité allongé pendant cette expérience et il dit de la douleur qu'elle était incroyablement réaliste. En fait, il a assisté à sa propre mort en direct. Pour le déjeuner, ces deux jeunes hommes se choisissent des pilules qui font croire à leur cerveau qu'ils dégustent un menu. Franz raconte alors qu'il fallait auparavant abattre des forêts entières pour cultiver le blé nécessaire à la fabrication des lasagnes. Et il commente les sensations thermiques de froid et de brûlé engendrées par ces pilules. Alors Zep, qui sont ces deux jeunes hommes et à quelle génération appartiennent-ils ?
Alors, ils appartiennent à une génération future. Moi, j'imagine ça dans un futur assez proche. Ça pourrait être les enfants qui vont naître dans 10 ans. Je pense qu'on n'est pas très loin de cette technologie-là. Hein. Donc, c'est un ouvrage d'anticipation. Comme toujours, l'anticipation, on part d'un postulat qui tourne mal, où la technologie va nous amener vers quelque chose qui devrait être formidable, mais qui s'avère être aussi problématique. C'est une société dans laquelle une partie des gens ont la possibilité d'avoir un second cerveau, un cerveau numérique, qui est en fait juste une extrapolation de ce qu'est notre iPhone aujourd'hui, et où en fait on peut le questionner, lui poser... il vient à notre secours, au secours de notre mémoire, qui est en fait de plus en plus défaillante. Je pense qu'on est la première génération à diminuer en termes de capacité mémorielle, parce qu'on n'a plus tellement besoin de le faire. Une partie des gens... fortunés ont accès, ont le droit d'avoir un cerveau numérique qui est une extension de leur propre cerveau, et donc ils n'ont pas besoin d'aller à l'école apprendre des tonnes de choses. Ils téléchargent tout le savoir de la planète, toutes les langues, et aussi également des expériences sensorielles, parce que tout ça sert majoritairement à du divertissement. On peut aussi complètement fabriquer la sensation de la nourriture, c'est-à-dire manger des gélules qui contiennent les protéines dont on a besoin, et nous faire croire à des textures, à des chaleurs, à n'importe quoi en fait. On n'est pas loin de ça. J'ai commencé à écrire cette histoire parce que j'ai entendu une nouvelle à la radio un jour où on parlait d'une équipe de recherche qui avait obtenu le budget pour créer une réplique d'un cerveau humain de manière numérique. Ils sont en train de travailler dessus et normalement, ce projet doit être terminé en 2024. Donc on est dans une certaine... c'est une science-fiction pas très future, hein. On est dans notre monde. Enfin, ce cerveau numérique devrait être la réplique exacte de notre cerveau humain, c'est-à-dire en contenir toutes les possibilités, toutes les connexions neuronales. Et on pourrait, dans l'absolu, se connecter à ce cerveau et donc télécharger tout ce qu'on veut, lui demander de faire une chose... comme on le demande aujourd'hui à notre téléphone, mais là, ça pourrait aller effectivement beaucoup plus loin. On pourrait expérimenter la douleur, c'est une expérience neurologique aussi. Hein. Donc on peut fabriquer une douleur qui n'existe pas physiquement. On peut se faire couper en deux sans être coupé en deux, ce qui est quand même assez pratique. Donc voilà, ils expérimentent toutes sortes de choses comme ça. Tout ça grâce à ce cerveau numérique, mais il faut savoir que ce projet de cerveau numérique réaliste, c'est-à-dire celui qui existe, qui est en train d'être construit maintenant, nécessite une énergie absolument phénoménale, à peu près l'énergie d'une ville pour faire fonctionner un cerveau, alors que nous, notre propre cerveau, il fonctionne avec une électricité très très faible, c'est celle qui est contenue dans notre corps. Pour que cette histoire existe, il faudrait qu'on trouve une nouvelle source d'énergie. Ou imaginer que toute l'énergie de la planète, elle est mise au service de ce projet-là pour une petite partie de la population qui est favorisée et que les autres doivent se débrouiller, et c'est le cas dans ce récit. Et on les appelle les gens de la forêt parce que pour finir, ils n'ont plus accès aux villes, ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus de chauffage, ils doivent se débrouiller autrement. Et retrouver une forme de partenariat avec leur propre environnement.
Et alors vous, cette équipe de recherche, est-ce que vous êtes déjà en contact avec elle ? Est-ce que vous faites partie des Happy Few qui ont des informations secrètes ?
Alors, secrète, c'est même pas tellement que ce soit secret, c'est juste que c'est incompréhensible, en fait. Je suis allé chercher un maximum d'informations, et après j'ai contacté le professeur Pierre Magistretti, qui a été un des scientifiques en charge de ce projet. Un neuroscientifique qui a un énorme avantage pour moi, c'est qu'il sait vulgariser le... son travail scientifique. Donc, je suis allé l'interviewer. Je lui ai posé une foule de questions et on s'est revus. Alors, comme c'était le Covid, on s'est vu beaucoup par écran interposé, mais tout au long de l'écriture du livre, où je lui posais des questions et je lui demandais où j'étais dans le plausible, où j'étais au-dessous de la réalité parfois, ou parfois je partais dans quelque chose qui n'avait absolument, qui n'était pas du tout imaginable. J'avais déjà travaillé comme ça pour l'album précédent qui s'appelle The End, sur la forêt. J'avais beaucoup travaillé avec Francis Allais. Et c'est passionnant, j'adore ça, parce qu'en fait, la bande dessinée tout à coup m'amène à rencontrer des gens qui sont des gens ultra intéressants dans un domaine qui est à des années-lumière de mes compétences. Ça me permet d'y entrer par la petite porte. Et puis, souvent, ces grands scientifiques aiment assez la fiction. Parce qu'au fond, la fiction permet de dire des choses que eux peuvent pas. Eux doivent toujours mettre en avant des choses qui sont factuelles, qui peuvent prouver. Ils peuvent pas dire « et si jamais », parce que ça, c'est pas du tout scientifique comme approche. Même en tant que scientifique, on a aussi envie de, parfois, d'attirer l'attention sur le fait que ça pourrait déraper. Mais c'est pas leur travail de faire ça. Et surtout, ils doivent surtout pas le faire, sinon ils coupent leur budget scientifique. Donc ils doivent continuer à avancer dans la recherche, tout en sachant que leur recherche, elle va peut-être nous amener à des choses qui vont pas être vraiment bénéfiques pour l'homme. Et le fait que des auteurs de fiction qui, eux, demandent rien à personne et ne sont pas soutenus par des budgets d'État se mettent à imaginer ces histoires-là, moi j'ai toujours rencontré des scientifiques qui étaient très intéressés par ça, aiment bien collaborer avec la fiction. C'est un bon relais, et puis c'est une partie de leur travail, un domaine dans lequel eux peuvent pas mettre les pieds, parce que c'est pas de leur droit d'une certaine manière.
Alors qu'en fiction, on a beaucoup de droits finalement.
En fiction, on a tous les droits, et puis je dirais même que l'intérêt de la fiction, c'est ça, c'est de dire, ok, dans le projet scientifique, c'est ça, mais s'il dérape, qu'est-ce qui se passe ? Pour le grand public, on va peut-être mieux comprendre avec une histoire. Comme on a compris les enjeux du clonage, on les a compris avec des films de science-fiction. Blade Runner a permis de comprendre plein de choses. Et on est en train de contribuer à ce glissement, en fait. Tout ce qu'on appelle l'humain augmenté, qui est une espèce de mot fourre-tout, ça veut aussi dire qu'on est en train d'accepter que l'humain va petit à petit muter, se transformer vers autre chose qui n'est pas un humain augmenté du tout, mais qui est un humain ultra assisté, en fait. De plus en plus assisté par la technologie et la robotique. Moi, je trouve ça assez inquiétant parce qu'en plus, ça veut dire que, évidemment, ce sera que certains humains. Les gens qui sont au Nigeria, ils vont pas être comme ça. Hein. On est en train de parler de personnes riches en Occident. On l'expérimente tous. On est face à un flot d'informations énormes qu'on sait pas trier. Il y a trop de choses. Donc, on prend plus du tout la peine de les mémoriser parce qu'il y en a trop. Et puis qu'on sait que de toute façon, on n'a qu'à appuyer sur un bouton puis on a nouveau accès à ces informations. On accepte de diminuer. On accepte d'être une espèce qui dégénère un petit peu.
Vous, votre travail, il commence quand, justement, ça commence à déraper. Alors, moi, si on dit clonage, effectivement, je pense au Meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou à Babylon Babies de Maurice Jedentek. Si on dit cyborg, ça me renvoie plutôt à des bandes dessinées d'Enki Bilal ou à Philippe K. Dick, à Blade Runner. Mais aussi à des séries des années 70, je ne sais pas si vous vous souvenez, comme Super Jenny.
Ah ouais.
L'homme qui valait 3 milliards. Exactement. Et si on dit adaptation, alors je pense à L'homme de l'Atlantide, qui respirait sous l'eau, au film Waterworld ou au X-Men. Et vous, en fait, à quoi, à qui, à quelles œuvres, peut-être, pensez-vous quand on vous dit homme augmenté ?
Moi, j'aime beaucoup Philippe K. Dick, donc lui a beaucoup écrit là-dessus, sur la manière dont on pourra manipuler le cerveau. C'est quelque chose qui intéresse les auteurs de fiction depuis longtemps. J'adore la science-fiction, je trouve que la bande dessinée c'est fait pour la science-fiction en plus. Mais je me sens plus proche d'auteurs comme Nicolas Bouvier, par exemple, qui a rien à voir, mais qui a écrit L'usage du monde, et son idée c'était de dire « je vais partir à la rencontre du monde pour le comprendre, et pour comprendre aussi qui je suis en tant qu'humain ». Moi je me sens plus proche de ça en fait. À la base je suis un auteur de bande dessinée pur jus, c'est-à-dire un petit garçon qui passe sa vie dans sa chambre à faire des dessins sous une lampe et puis qui sa culture c'est la bande dessinée, il lit que des bandes dessinées, il pense qu'à la bande dessinée. Quand il doit dessiner un truc qu'il connaît pas, il le regarde comment ça a été fait dans une autre bande dessinée. Et puis à 25 ans j'ai découvert Nicolas Bouvier, je l'avais rencontré et ça m'a touché cette idée et je me suis dit c'est vrai en fait. faut que j'aille aussi à la rencontre de ce monde, faut que j'arrête d'être juste dans ma chambre en train de dessiner. Et je me suis acheté mon premier carnet de croquis et je suis parti dessiner dehors. Ça m'a donné envie d'aller à la rencontre de ce monde. Et de dessiner de plus en plus et d'en dessiner aussi les gens, les forêts évidemment. J'ai appris la forêt par le dessin. C'est de dessiner les arbres qui m'a donné la sensation qu'ils étaient vivants et que j'entretenais tout à coup une espèce de discussion avec eux en dessinant. Je me suis dit, mais au fond, c'est vrai, ils sont là, ils nous observent aussi, ils réagissent à notre présence. Donc j'ai eu envie de réfléchir là-dessus, de lire des choses là autour, d'aller écouter des botanistes qui parlaient de ça. J'ai commencé à écrire cette histoire de Diane. Et là, c'est un peu la même chose, cette histoire du cerveau numérique. Je me suis dit, tiens, c'est génial. Et j'ai écouté plein de choses, je suis allé rencontrer ce Pierre Magistrati, qui me racontait des choses encore plus incroyables que ce que j'avais entendu à la radio. Et puis tout ça constitue une histoire qui est chaque fois une manière pour moi de, à la fois de comprendre l'espèce dont je fais partie. On est une espèce qui est un peu perdue par rapport aux arbres, aux animaux, où tout est assez clair, la manière dont ils fonctionnent. Enfin, ils savent pourquoi ils sont là. Nous, on ne sait pas, on est toujours un petit peu en train de patauger, on fait des recherches complètement incroyables. On manipule l'atome en disant « ça va être génial, on fait mourir la moitié de la planète avec ça ». Enfin, c'est insensé comme l'humain fonctionne. C'est, en termes d'efficacité, on est le pire truc, le pire exemple. Nous, on est la pire espèce, ça c'est clair. Ouais. Et en plus, on précipite la disparition de plein d'autres espèces et la nôtre.
On est pourtant très fiers de notre cerveau.
On est très fiers de notre cerveau, mais on a de quoi, parce qu'il est formidable. C'est une machine juste incroyable et on n'en a pas fait le tour. On le voit bien parce que l'équipe qui travaille là-dessus... Alors, je vous passe tous les débats sur l'âme, l'inconscient et tout. Et, mais effectivement, ces grands scientifiques disent que tous résument à des échanges, des parcours neuronaux dans la gliale, dans les circuits...
Électrique,
quoi. C'est d'électricité, en fait. Donc voilà, tout ça m'intéressait beaucoup. Puis après, je suis tombé sur ces gens qui ont le syndrome du savant, qui est aussi quelque chose que je trouve complètement hallucinant. Le cerveau, notre cerveau, face à un danger énorme, une mort imminente, en fait. Genre, vous allez vous prendre un train en pleine face. Votre cerveau, il a une réaction, il fait quelque chose. Alors, généralement, comme on meurt, on ne sait rien. Mais parfois, les gens survivent et leur cerveau a tenté une pirouette de la dernière minute et c'est comme s'il avait réécrit votre carte et tout à coup vous êtes une autre personne. Il y a des témoignages qui existent, des gens qui sont même étudiés puisqu'il y a des gens qui sont encore vivants maintenant, qui tout à coup, je sais pas, je raconte dans le livre plusieurs cas, mais un représentant en aspirateur qui se fait agresser dans la rue, il se réveille, il explique les équations fractales. Des gens tout à coup vont se réveiller enfin, dans un coma et... Enfin, c'est pas des comas longs, généralement c'est plutôt un choc très fort. Genre, ils ont pris la foudre, ils sont devenus musiciens, ou ils parlent plusieurs langues. Parce que le cerveau a enregistré des trucs comme ça de manière inconsciente, et s'est perdu quelque part dans le cosmos de votre cerveau, et tout à coup, le circuit se fait ailleurs, et il va réveiller ça, enfin, il va reconnecter ça. Et quand vous vous réveillez, vous êtes cette personne-là, et pas celle d'avant. Il y a un bonhomme au 19e siècle, travaillait sur les chemins de fer aux États-Unis. Quand il construisait le chemin de fer dans le désert, et à un moment, il y a une explosion, il se prend une barre à mine qui lui traverse la tête. Le gars, au milieu de nulle part, il l'amène au saloon du coin en disant bah, il va mourir juste. Et le gars ne meurt pas. Ils arrivent à le recoudre un peu et il reste vivant. Il vit encore 18 ans, je crois. Sauf qu'à partir de là, c'était un type très réservé, gentil, poli avec tout le monde. Ça devient un gros lourd qui insulte tout le monde et qui est hyper désagréable avec les femmes et enfin qui devient une espèce de type
épouvantable.
Voilà. Simplement parce que son cerveau l'a reprogrammé comme ça. Moi, je trouve ça fascinant et je me dis, on a un cerveau qui est
meuble,
qui est meuble et qui est grand. Ouais, le cosmos, c'est un bon exemple parce qu'on a un cosmos et en fait, on vit que sur une planète. Mais on pourrait tout à coup voyager un peu. Pour moi, c'est hyper dommage de dire qu'on va confier notre intelligence à un smartphone ou à un ordinateur et qu'on va de moins en moins mémoriser de choses et être de plus en plus limité. On n'a pas encore trouvé même quelle est notre place dans toute cette histoire. Tout le vivant sur Terre, c'est exactement pourquoi il est là.
Mais vous avez choisi d'augmenter le cerveau, parce que c'est là-dessus que vous êtes tombé peut-être, mais vous n'avez pas imaginé, par exemple, d'augmenter certains sens, comme par exemple la vue ou l'ouïe.
En fait, la vraie révolution, c'est le cerveau. C'est-à-dire que si on contrôle notre cerveau, on pourra régénérer nos membres, on pourra régénérer nos cellules, on pourra optimiser nos ressources. Et les sens, par exemple, ben, tous les sens, ils sont pilotés par le cerveau. Donc, on peut vous faire croire que vous êtes grand et fort. Il n'y a pas besoin de le faire vraiment. Si le cerveau y croit, c'est super. Donc,
c'est le royaume des illusions, quasiment.
C'est le royaume du divertissement. On est en train de développer une technologie incroyable qui est au service du divertissement. Parce qu'au fond, on s'ennuie. Cette vie qui n'a pas complètement... On n'a pas trouvé le
sens,
le dessin de notre existence. On a besoin de beaucoup s'amuser et de s'occuper pour ne pas non plus être effrayé par ça. C'est pour ça qu'on est en train de surdévelopper le divertissement de manière quasi obsessionnelle, puisqu'on voit avec les plateformes, enfin, elles veulent pas que vous ayez 10 secondes de répit, quoi. Il faut qu'il y ait du divertissement tout le temps, et on crée une génération qui s'ennuie très vite, en fait. Dès qu'il y a pas d'écran, dès qu'il y a pas de wifi, ils s'ennuient. Il y a rien à faire. Alors qu'il y a plein de choses à faire. On devient paresseux, voilà. À un moment, on préfère s'anéantir par paresse plutôt que, enfin, les belles choses pour moi dans l'humanité, c'est la curiosité, c'est le fait qu'on est en éveil, qu'on essaye de comprendre justement tout ce qui nous entoure. C'est notre intelligence, au fond. De quelle manière on va justement activer toute cette électricité dans nos têtes et en faire quelque chose de passionnant plutôt que foncer sur des gens en voiture. Moi, je suis un peu effrayé par la manière dont tout ce monde virtuel de jeu envahit la vie de la nouvelle génération. Parce que c'est tellement cool. C'est tellement facile, en fait. On peut rester devant des heures, des heures, des heures et des heures. Et on ne se rend pas compte que ce temps s'est écoulé. Donc c'est comme si on avait gagné tout ce temps à faire quelque chose d'illusoire, alors qu'on a perdu tout ce temps. On aurait pu faire des choses géniales.
Est-ce qu'on appelle un peu ringard quand on dit ça?
Complètement. Et ouais, je trouve qu'on a telle capacité créatrice qu'il faut les utiliser, quoi. Au fond, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Pourquoi on est là? Je pense que c'est bien de s'agiter un petit peu autour de ces questions.
Vous avez regardé du côté du transhumanisme? Là aussi, il y a plusieurs castes, plusieurs catégories, plusieurs chapelles.
Bon, majoritairement, c'est quand même des choses assez farfelues, hein. Puis c'est surtout une espèce de combat contre le temps. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix être plus fort, vivre plus longtemps, pouvoir durer plus longtemps. J'ai une amie qui allait faire un documentaire justement aux États-Unis sur ce congrès de tous les scientifiques, dont énormément de charlatans qui travaillent sur le transhumanisme. Et on voit ces gens californiens qui disent « C'est incroyable, vous croyez que j'ai quel âge ?» On voit très bien qu'ils ont 80 ans, mais ils ont certaines parties de leur corps qui ont l'air d'en avoir 25. Ils ressemblent plus à des monstres qu'à des gens de 25 ans. C'est absurde, ça, de vouloir jouer contre sa nature. Alors, je trouve que c'est super pour des gens qui sont accidentés, à qui on peut redonner une jambe. Là, voilà, je me dis, je salue la technologie humaine. Mais de toute façon, ça me fascine, la technologie humaine. Mais quand c'est pour retendre la peau à outrance, juste derrière les oreilles, mais par contre le cou pendu... Enfin, c'est absurde. Je trouve que là, on est dans... C'est Freaks, quoi. On est dans un... C'est le festival des monstres.
D'autant qu'il y a une dimension sociale très forte dans votre album. Ce qu'on dit du transhumanisme dès aujourd'hui, c'est qu'il est quand même accessible aux plus riches de la planète. Vos deux premiers personnages dont on parlait tout à l'heure sont quand même des jeunes hommes qui appartiennent à une des classes les plus riches. Je crois qu'il y a des sous-catégories.
Grosso modo, il y a les riches et les pauvres. Donc, il y a les gens qui vivent dans les villes et les gens qui vivent dans la forêt. Après, comme toujours, les riches ont besoin des pauvres. Donc, il y a aussi les gens de la forêt qui viennent bosser pour les riches, donc qui ont des espèces de semi-passe-droit. Et puis, dans les riches, il y a des riches et des moins riches. Donc, il y en a qui ont vraiment la version premium, où ils peuvent faire de la télékinésie, beaucoup de choses compliquées. Et puis, ceux qui ont un truc un peu plus basique, avec les langues de base. Et donc, il y a aussi une concurrence entre eux. Mais ceux qui ont le premium vivent dans un certain ennui, parce qu'au fond, d'avoir la connaissance de tout, c'est pas très fun. En fait, ce qui est génial, c'est d'acquérir la connaissance. Si on vous la donne, c'est un côté excitant comme ça. Moi, j'adorerais qu'on m'ait donné toutes les langues, parce que j'ai tellement souffert à l'école pour apprendre péniblement trois langues.
Le japonais en une minute.
Ouais, le japonais en une minute, en fait, pour un téléchargement, c'est hyper rapide. La culture, c'est l'acquisition qui est géniale.
On sent bien que l'ennui est du côté effectivement des hommes augmentés et l'aventure du côté de la forêt. Mm-hmm. Alors, effectivement, il y a un écho à The End, peut-être en mode un petit peu plus joyeux que dans The End.
Ouais.
Qui sont-ils, en fait, ces gens, sans trop en dire non plus, mais ces gens de la forêt, on les appelle comme ça, c'est très poétique. Alors, on ne sait pas très bien s'ils se sont installés là parce qu'ils ont été repoussés là ou parce qu'ils ont fait le choix d'être là. Ils ont un petit côté zadiste aussi.
On voit qu'il y a plusieurs. Il y a des gens qui vivent un peu dans du matériel de récup, il y a des gens qui vivent vraiment dans des maisons construites. C'est le cas du personnage féminin, Hazel, qui vit dans une maison qui ressemble à une maison de Hobbit, un petit peu, hein, qui essaie de vraiment vivre en harmonie avec la nature. La majorité des gens de la forêt, c'est des gens des bidonvilles, ils se sont rassemblés en périphérie des villes, puis ils vivent dans du matériel de récupération, dans des conditions d'hygiène un peu crades. On va toujours se masser, vivre les uns sur les autres, parce que ça nous rassure d'être ensemble. Il y a un drame de notre planète, c'est qu'on a des énormes villes qui causent d'énormes problèmes à l'environnement, où les gens vivent dans des conditions pas super, avec pas beaucoup forcément de travail, vous roulez une heure et puis il y a de la nature à perte de vue et là il n'y a personne. Vous vous dites pourquoi tout le monde va là? Si vous survolez l'Afrique par exemple, c'est ahurissant de voir comme le pays est riche, dense, vert et inhabité et que les villes ça ressemble vraiment à des bidonvilles tout secs et tout le monde habite là. Il y a tellement de place. Pareil en Amérique aussi, le pays il est immense et tout le monde est massé dans des villes. Avec la majorité des gens qui habitent dans des conditions qui sont déplorables, quoi, qui sont hyper précaires. Donc on a ce côté, on va se coller ensemble, plutôt que d'aller essayer de voir comment on peut comment on peut vivre en adéquation avec notre environnement, qui est fait pour, hein, normalement. On devrait, mais moi je vous dis ça, j'habite dans une maison avec le chauffage. Si on met dehors avec une boîte d'allumettes, je pense que j'ai une espérance de vie d'une semaine. Donc,
mais ça vous fait rêver d'habiter en forêt.
En fait, ça me questionne vraiment de me dire, il y a un moment, il faut qu'on trouve comment on va vivre avec cet environnement. Au lieu de vivre contre cet environnement et de le démolir en emportant la culpabilité, on entend tous les jours qu'on est en train de détruire notre planète. Et moi, je suis gentil, j'ai pas envie de détruire ma planète, je sais pas pourquoi on me dit ça, j'ai rien fait de mal. Mais juste en existant, on détruit les ressources, on pollue autour de nous, on consomme de l'eau de manière comme on nous a appris, mais qui est, à l'échelle du monde, ce qui se passe aujourd'hui, irresponsable. Mais en même temps, on fait tout juste. Moi, je suis pas pour avoir un message anxiogène et culpabiliser les gens. Je pense que les gouvernements font clairement pas le travail qu'ils sont engagés à faire par rapport à ça, qu'il faut pas, visiblement pas trop compter sur eux pour changer. C'est une espèce de croisée des chemins. Si on continue comme ça, ben oui, on va aller vers quelque chose qui va précariser de plus en plus notre existence. On est un peu en sursis, là. Voilà. Je pense pas que ce soit une fatalité. Ces 5000 dernières années, on a pris des chemins qui nous ont amenés à vivre et à nous couper de notre environnement. On s'est massé dans des villes en faisant des forteresses pour plus être avec les loups, avec les arbres, avec les poissons, avec les... Et aujourd'hui, on se rend compte que, on va pas pouvoir vivre sans tout ça. Mais on sait plus comment le gérer. On se rend juste compte qu'on est en train de l'abîmer et que tout le monde nous dit que c'est mal, mais qu'on sait pas trop comment faire pour arrêter. Il y a des solutions, mais elles sont pas à la portée de vous et moi. C'est des décisions gouvernementales presque planétaires. Et qu'on est loin de les prendre.
Alors cette dualité ville-forêt, on pourrait dire aussi inquiétude et peut-être réconciliation, elle est sensible jusque dans la couleur, je trouve, que vous avez, les couleurs que vous avez utilisées. Comment est-ce que vous avez essayé de rendre ces différents niveaux de réalité? Parce qu'en fait, il y en a quand même plusieurs. Il y a une sorte de réalité, celle que vit Constant. On ne sait pas très bien si elle est virtuelle ou si on peut la dire virtuelle, si c'est ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau. Et la réalité qu'on voit en tant que lecteur, c'est celle de la case, puis il y a celle de la forêt. Comment est-ce que vous avez pensé à marier ces différents univers?
Moi, j'avoue que je suis plus intéressé par dessiner le réel. Donc, j'aime beaucoup dessiner des gens qui vivent dans des roulottes, des caravanes, des trucs de bric et broc. D'inventer une ville futuriste, ça m'intéresse moins, parce que ça a déjà été fait par beaucoup de gens très brillants, et que moi, c'est pas mon point fort, donc... J'ai fait une espèce de ville où je me suis inspiré de l'architecture futuriste, un peu de briquet de broc. Mais cette partie-là m'intéresse moins. Quand on fait de la bande dessinée, il y a toujours des choses pour lesquelles on a plus d'appétence, on a envie de dessiner des choses, et puis d'autres, bon, faut les faire parce que c'est pour l'histoire, il faut les faire. Alors moi, c'est clair que les voitures futuristes, ça fait partie de la deuxième catégorie, il faut les faire. Mais j'ai pas l'excitation comme certains de mes collègues à modéliser des véhicules du futur. En plus, on se rend bien compte que on est toujours tombé un peu à côté avec ce genre de choses. On a modélisé un futur qui n'a jamais été celui qui a été dessiné ou montré dans les films.
Vous préférez la maison de Hobbit?
Clairement. J'ai pas tellement envie d'habiter dans une ville aseptisée, en fait. Je rêve plus d'une vie où il n'y aurait pas un clivage entre la ville et la nature, mais que les deux choses qu'on habiterait dans la nature, en fait. Peut-être qu'on va aussi transiter vers quelque chose comme ça avec le temps. Il y a déjà des gens qui le font avec des choses extrêmement radicales, un discours radical, mais on peut peut-être le faire de manière plus accessible à tous.
Est-ce que ça se ressent sur la palette? Est-ce que vous aviez anticipé des couleurs ou des teintes qui seraient rattachées justement à des émotions comme ça?
En fait, les couleurs, pour moi, sont toujours rattachées. Ouais, elles sont rattachées à des émotions et elles sont... pour moi, c'est la musique. Dans un film, vous avez la musique pour raconter les émotions, les ambiances. En bande dessinée, on n'a pas ça. Donc la couleur, elle est expressionniste, quoi. Elle doit être là pour ça. À mon avis, c'est plus utile ça que de faire de la couleur réaliste, de dessiner, de dire voilà, l'herbe est verte, le ciel est bleu. Je crois que ça, les lecteurs, ils le savent. J'ai plus envie de dessiner, d'avoir des ambiances colorées. Et chaque fois qu'on change de séquence, je change de couleur. C'est un petit peu comme... les disques, quand on était petit, on avait la fée clochette qui agitait sa clochette. Alors, moi, j'ai pas de clochette, donc je change d'ambiance colorée. Ça veut dire qu'il s'est passé un temps entre cette séquence-là et la suivante. Et puis après, ben, effectivement, si on est dans un climat pesant, je vais travailler dans des rouges. Si on est dans des climats où on va plus vers la peur, je vais partir sur des bleus, des turquoises ou des gris. Voilà. Je jongle un peu avec quelques ambiances colorées. Après, c'est pas illimité, donc... Je peux pas changer de séquence toutes les trois cases. Ça donne aussi un rythme de récit où on prend un peu plus le temps. C'est pas du comics, je raconte pas non plus une histoire de baston, même s'il y a des scènes de violence, des poursuites, des choses comme ça. On est dans un rythme plus doux.
Et quelque chose de très intérieur. Puisqu'on parle du cerveau, on pourrait imaginer qu'on est dans une sorte de... quasiment de grande bulle. Mm-hmm. Et alors, c'est drôle parce que vous parlez d'un futur très proche, si on imagine 2024, on imagine peut-être un petit peu plus lointain, et en même temps le titre est au présent, ce que nous sommes, c'est une manière de dire que c'est déjà demain.
Oui, et puis que c'est ce que nous sommes en fait, c'est la même espèce que nous, même si on est dans 50 ans, ou même dans 100 ans, c'est toujours nous. En fait, ce que nous sommes aussi comme une question, qu'est-ce que nous sommes, c'est que... Moi, je pense qu'on est défini aussi par notre curiosité, notre faculté à apprendre et à comprendre les choses, et à les intégrer. Si on nous enlève ça, si on n'a plus besoin, et qu'on télécharge le truc, qu'est-ce qui reste de nous? Et en fait, c'est ce qui arrive au personnage principal, c'est qu'il a tout ce savoir, et on est dans une société où il y a toujours de la criminalité, évidemment, et donc il y a des gens qui piratent les cerveaux, il se fait voler son cerveau assistant. Par conséquent, il perd toute cette partie du savoir, c'est-à-dire tout ce qu'il n'avait pas acquis, et lui reste que ce qu'il avait acquis, c'est-à-dire très peu de choses. Il ne sait plus lire, il ne sait plus s'orienter, il ne sait plus son nom, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus s'exprimer correctement. On est quoi, là? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui est humain? C'était l'ordinateur? Donc c'est des questions pour lesquelles j'ai pas de réponse. Ça m'intéresse pas d'arriver avec une réponse. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire qui soulève des questions.
Merci beaucoup, Seb.
Merci.
À bientôt, sur Aide de Géant peut-être.
Avec plaisir.
Aide de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chagne. À bientôt pour un prochain épisode sur Aile de Géant.